vous n'avez jamais compté les rois qui s'appelaient Louis. Alors il y a Louis 1, Louis 2, etc. Louis 12, Louis 13, Louis 14, Louis 15, Louis 16. Et on passe directement à Louis 18. Alors, soit ils savent pas compter, soit il y a réellement un problème. Bah, où est passé le 17ème, bordel ?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et bien pour ça, plongeons-nous dans son histoire.
La curiosité retourne à l'école
sur RTL.
Où est passé le 17ème ? On va répondre à cette question avec Franck Ferrand. Bonjour Franck, bienvenue chez vous.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Vous êtes sociétaire des Grosses Têtes sur RTL, je le rappelle. D'ailleurs, vous participez à l'émission qui sera diffusée.
Oui, j'y serai cet après-midi, tout à fait.
Avec Laurent Ruquier qui sera à vos côtés.
Avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Philippe Manœuvre. On va donc faire un peu de musique. Jean-Philippe Janssen et Florian Gazan.
Bon, bah, ça promet. On sera évidemment à l'écoute à 15h30. Mais d'abord, grâce à vous, on va se plonger dans l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Vous
dans le 17e, en fait, le fameux 17e.
Oui, c'est ça, dans le 17e, c'est ça. C'est en partenariat avec le magazine Historia. Louis-Charles de France, hein, c'est son nom complet. Il naît le 27 mars 1785 à Versailles. Alors, il se place où dans la hiérarchie ? Il arrive en quelle place là,
Au moment où il naît, il est le troisième enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette. Vous savez que Louis XVI et Marie-Antoinette étaient un drôle de couple. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir des enfants pour des raisons qui étaient d'ailleurs d'ordre physique au départ. Et puis, finalement, la reine a eu d'abord une première fille, Marie-Thérèse, celle qu'on appelle Madame Royale dans l'histoire, et puis deux petits garçons, Louis-Joseph, qui va être dauphin de France, et son petit frère qui naît donc en 1785. C'est celui-ci qui nous intéresse, il s'appelle Louis-Charles.
Parce qu'il va devenir l'héritier, c'est ça, assez vite.
Mais c'est-à-dire que Louis-Joseph, hélas, est un enfant atteint de tuberculose osseuse. Alors ça, c'est une des histoires les plus tristes qu'on puisse imaginer, même si on est dans les ors du château de Versailles avant la Révolution. Ce petit garçon qui est d'une intelligence très vive, qui est très malin, très humain, qui est tout ce qu'on veut, malheureusement souffre le martyr et il va finir par mourir. Et ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est qu'il est mort, ce Louis-Charles, pendant la réunion des États généraux. C'est-à-dire alors que la France est en plein bouleversement, alors que commence la Révolution française, Louis XVI et Marie-Antoinette ont l'esprit complètement occupé par la maladie mortelle et par le décès de leur petit garçon. Et à la mort de Louis-Joseph, évidemment, c'est son tout petit frère, hein, il a 4 ans, qui devient le dauphin de France. C'est le petit Louis-Charles qui, un jour, si son père venait à mourir, serait le roi Louis XVII.
Franck Ferrand, Louis-Charles de France, le petit Louis-Charles, il a à peine 4 ans. La tourmente révolutionnaire va rapidement bouleverser son existence. On est le 21 janvier 1793. Louis XVI, son papa, est donc guillotiné à Paris, sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Et Louis-Charles, là, ne va plus rester ce petit garçon. Il devient un enjeu politique entre les royalistes et les révolutionnaires.
Mais bien entendu, vous imaginez, il est le roi de France. C'est-à-dire qu'en France, le roi ne meurt jamais. À partir du moment où Louis XVI est mort, à la minute où le couperet de la guillotine s'abat sur la nuque de Louis XVI, ce 21 janvier 1793, eh bien, le roi est mort, vive le roi. Louis XVI est mort, vive Louis XVII. Et pour tous ceux qui, partout en Europe, parce qu'ils ont émigré pour beaucoup, mais aussi en France, n'oubliez pas l'insurrection de la Vendée notamment, pour tous ceux qui croient à la monarchie, pour tous ceux qui défendent l'idée d'un principe royal, évidemment, ce petit garçon devient Louis XVII. Vous savez, il a connu la Révolution. On pourrait presque dire que c'est une seconde nature pour lui, puisque dès octobre 89, alors qu'il est dauphin depuis quelques semaines seulement, on l'emmène avec ses parents aux Tuileries. Il va vivre aux Tuileries dans une sorte de résidence surveillée. Il va bien sûr participer à la fuite à Varennes en juin 91, et puis au moment où s'effondre la monarchie en août 1792, eh bien, il va être emmené avec ses parents à la prison du Temple. Et il faut imaginer qu'il a vécu prisonnier. Alors, quand son père a été jugé et exécuté, il devient le roi. Il faut imaginer sa mère, sa tante et sa sœur qui sont prisonnières avec lui, qui se répandent en... Vous savez, elles font la grande révérence devant celui qui maintenant est devenu leur petit maître. Sauf qu'on va arracher ce petit roi à sa mère. On va l'installer tout seul dans une espèce de cachot où on va l'oublier parce que les révolutionnaires n'osent pas guillotiner un enfant, bien entendu. Mais ils n'ont pas l'intention qu'il survive et donc on va le laisser dépérir.
Franck Ferrand, quand et de quoi Louis XVII, l'enfant du Temple, est-il mort ?
Alors, il est mort officiellement le 8 juin 1795. Il est mort d'une péritonite aiguë. C'est en tout cas ce que nous dit son autopsie. Il était malade, lui aussi, depuis très longtemps de la tuberculose. Il vivait dans des conditions effroyables, sur une sorte de galta. On lui donnait ses repas, vous savez, par une espèce de petit guichet, comme ça. Il ne pouvait même pas parler à ceux qui étaient devenus ses geôliers. Sa vie, la fin de sa vie est une chose absolument atroce. Il meurt donc, on a presque envie de dire « ouf, c'est un soulagement ». Il meurt en juin 1795. Et sauf que certains nous disent que ce n'était plus lui qui était prisonnier depuis le mois de janvier 1794.
Oui, donc, Franck Ferrand, on les appelle les survivantistes.
Exactement.
Qui sont-ils et quelle est leur foi, leur croyance profonde?
Mais on sait qu'au début de l'année 94, Robespierre est venu à la prison du Temple. On sait qu'il a emmené avec lui l'enfant et qu'il l'a ramené le lendemain soir. Et certains disent, eh bien, l'enfant qu'il a ramené le lendemain soir, ça n'était pas Louis XVII. C'est parce qu'il y a ce mystère-là que Louis XVII est devenu la plus grande énigme de l'histoire de France, bien entendu. On a voulu, dans Historia, ce mois-ci, justement, revenir sur la question, puisqu'officiellement, l'affaire est réglée depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, depuis l'an 2000, que l'on sait que Louis XVII est bien mort au Temple. Mais certains
alors ça,
disent non.
Oui, vous allez nous le raconter en détail. Hein, pourquoi on sait depuis 20 ans qu'officiellement il est mort à la prison du Temple. Franck, vous allez nous dévoiler pourquoi cette énigme continue de fasciner les historiens et les scientifiques depuis des siècles. Et puis je rappelle que vous publiez « Mon enfance, quelle histoire ?» C'est tout autre chose, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Ouvrage d'entretien avec Catherine Lalanne, publié chez Bayard. A tout de suite sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
8 juin 2004. Un corbillard escorté par deux motards traverse Paris en trombe. Il se rend dans le 9-3 à Saint-Denis, à la basilique des rois de France. Il paraît qu'on enterre un roi, qu'il y aurait des ducs, des princes. Tout cela existe donc encore en France?
Les profs que vous auriez rêvé d'avoir sont sur RTL.
Aujourd'hui, ce qu'on inhume en grande pompe, ce n'est pas un corps, mais un cœur d'enfant. Celui de Louis XVII.
On a cours d'histoire aujourd'hui avec un super prof, Franck Ferrand, et en partenariat avec le magazine Historia. Vous nous racontez le destin de Louis XVII, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, l'héritier du trône, mort officiellement à la prison du Temple en juin 1795. Et ce que l'on vient d'entendre, là, cette archive de 2004, que se passe-t-il exactement ce 8 juillet à la basilique Saint-Denis, Franck Ferrand?
Alors, c'est l'inhumation en grande pompe. Je me rappelle très bien tout ça, d'ailleurs. C'était donc, effectivement, il y a 16 ans déjà, l'inhumation du cœur de cet enfant du Temple. En tout cas, ce que l'on pense être le cœur de l'enfant du Temple, parce que toute la question est là. Il faut vous dire qu'au moment où meurt cet enfant, donc on est en juin 1795, un certain nombre de médecins, de professeurs, des praticiens viennent pour procéder à l'autopsie. Et celui qui dirige l'autopsie, s'appelle le docteur Pelletan, dit que profitant d'une distraction de ses confrères, il a attrapé sur une table juste à côté de la table d'opération, il a pris le cœur qui venait d'être extrait et il l'a glissé dans la grande poche de sa blouse. Et puis rentré chez lui, il a mis ce cœur dans un bocal d'alcool, il l'a installé dans sa bibliothèque. Bon, tout ça a duré du temps. Alors, il y a eu pas mal de... Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires un peu rocambolesques de ce cœur. Toujours est-il que lorsque la monarchie a été rétablie, parce qu'on oublie toujours ça, mais après la Révolution, il y a eu Napoléon, et après Napoléon, les rois sont revenus. Deux des frères de Louis XVI ont régné en France, Louis XVIII et Charles X. Et donc, au moment où règne Louis XVIII, le docteur Pelletan propose à Louis XVIII de lui restituer le cœur de son neveu. Louis XVIII ne veut pas de la relique, et finalement, cette relique, elle se retrouve dans le bureau de l'archevêque de Paris. Il s'appelait Monseigneur de Quélin, bref. Et elle va rester, cette relique, pendant longtemps, jusqu'au moment du grand sac de l'archevêché en 1831. À ce moment-là, le cœur se retrouve complètement dans les débris, dans les décombres de la mise à sac par les émeutiers parisiens de l'archevêché. Et c'est le fils du docteur Pelletan qui va le récupérer. Et ce cœur, il va se transmettre ensuite de personne en personne jusqu'à un certain nombre de princes de la branche aînée de la famille de Bourbon. Et ce sont ces princes, enfin en l'occurrence ce sont les princesses Massimo, qui en 1975 ont fait don de ce cœur à l'Institut de la Maison de France, qui donc l'a fait inhumer en 2004 en grande pompe.
Mais alors finalement, Franck Ferrand, 205 ans après la mort officielle de Louis XVII, on est le 19 avril 2000, la science donne une réponse, on pourrait dire enfin. Et que dit la science? Qu'affirment les scientifiques ce jour-là?
C'est mon confrère et ami Philippe Delorme qui avait fait un gros travail sur l'histoire de ce cœur et qui a proposé au professeur Cassiman de l'université belge de Louvain de faire une étude génétique, une étude ADN pour savoir si oui ou non ce cœur était bien celui d'un enfant de Marie-Antoinette. Et la réponse est oui. Il s'agit bien d'un cœur, du cœur d'un enfant de Marie-Antoinette. Donc, Philippe Delorme en a conclu qu'il s'agissait bien du cœur de l'enfant du Temple. Et comme cet enfant du Temple venait d'être autopsié, avait été autopsié en juin 1795, on s'est dit, ça veut dire que Louis XVII est bel et bien mort au Temple, qu'il n'a pas été substitué, qu'on n'a pas réussi à le faire sortir du Temple, qu'on n'a pas mis un autre enfant à sa place. Bref, c'est bien lui qui a été inhumé. C'était la fin de la plus grande énigme de l'histoire de France, parce qu'il faut vous dire que 800 ouvrages ont été écrits sur ce sujet. 800, c'est énorme.
Et pourtant, Franck Ferrand, ça ne suffit pas. Cette preuve, elle est rejetée par certains. Il rappelle que Louis-Charles et Louis-Joseph, donc les deux fils de Louis XVI, avaient 3 ans et demi d'écart à peu près. Et c'est cette proximité d'âge qui va alimenter leur suspicion, c'est ça?
C'est-à-dire qu'en fait, le hasard incroyable a fait que dans le fameux bureau de l'archevêque de Paris dans les années 1820 et 1830, se trouvaient les deux cœurs. Se trouvaient le cœur de Louis-Charles, donc celui qui nous intéresse, mais aussi le cœur de son grand frère, Louis-Joseph, qui lui était mort pendant les états généraux. Vous vous rappelez, le premier dauphin, celui qui était victime de tuberculose osseuse. Et donc, certains qu'on appelle donc les survivantistes nous disent, mais en vérité, le cœur qui a été analysé par le professeur Cassiman en l'an 2000, ce n'est pas le cœur de Louis-Charles, c'est bien le cœur de Louis-Joseph. Donc, ça ne veut rien dire. On n'en sait pas davantage sur ce qu'est devenu l'enfant du Temple. Il faut quand même être honnête. On a une traçabilité, si vous me passez l'expression, très grande pour comprendre tout le parcours du cœur. Il faudrait vraiment un hasard incroyable pour que les survivantistes aient raison. Mais il est vrai qu'on ne peut pas totalement fermer cette porte-là et que d'une certaine manière, on peut sauver cette énigme, on peut sauver ce grand mystère de l'histoire.
Mais vous avez évoqué cette hypothèse aussi, Franck Ferrand, l'hypothèse d'un échange d'enfants. Est-ce qu'il y a des éléments qui accréditent cette idée, je crois notamment dans un cimetière parisien?
Oui, qui est le cimetière Sainte-Marguerite. C'est-à-dire qu'on a effectué à plusieurs reprises, au 19e et au début du 20e siècle, on a effectué des exhumations dans la fosse commune du cimetière Sainte-Marguerite. On a cru reconnaître le squelette de l'enfant, ne serait-ce que parce que le crâne était scié. Si le crâne est scié, ça veut dire qu'on a procédé à une autopsie. Or, généralement, on ne procédait pas à des autopsies pour les personnes qui n'en valaient pas la peine à l'époque. Donc, ça pourrait être, pensait-on, le cœur de l'enfant du Temple. Or, il est incontestable que les ossements qui ont été extraits de la fosse du cimetière Sainte-Marguerite sont les ossements d'un enfant qui avait entre 14 et 15 ans, qui donc était nettement plus grand, plus âgé que le petit dauphin, qui lui était censé n'avoir que 10 ans, je dis bien 10 ans au moment de sa mort au Temple. Ça, c'est une des raisons qui ont conduit certains à se poser des questions sur la survie de l'enfant. Mais la vraie raison, c'est que dès le début du 19e siècle, dans les années 1820, dans les années 1830, ont commencé à fleurir partout toutes sortes de personnes qui se sont présentées et qui ont dit « Je suis Louis XVII ». C'est ce qu'on appelle les prétendants.
Offrez-vous une parenthèse de savoir.
Paris, rue Sainte-Marguerite. Derrière l'église, une simple et mystérieuse stèle indique la tombe de Louis XVII. Né en 1785, mort à l'âge de 10 ans.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Delft, en Hollande. Une plaque mortuaire porte mention du même nom, Louis XVII. Mais ici, l'inscription indique que le défunt roi est décédé à 50 ans.
Restez curieux avec RTL.
Et quand est mort Louis XVII? C'est la plus grande énigme de l'histoire de France que l'on découvre, racontée par Franck Ferrand. Et c'est ce qu'on vous propose jusqu'à 14h30 sur RTL, en partenariat avec le magazine Historia. On va maintenant découvrir la cohorte des prétendants, la cohorte de ceux qui se présentent comme les descendants de Louis XVI. Il y en a eu beaucoup comme ça, des héritiers, je mets des guillemets, de la couronne de France.
Oui, il y en a eu énormément. Vous savez, c'est presque devenu un sport national au début du XIXe siècle de dire « Je suis le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, on m'a sauvé du temple, j'ai été élevé, alors certains disent à la campagne, au bord de la mer, dans des îles, même parfois lointaines. Toutes les théories ont existé et me voilà, je suis donc le propriétaire, le détenteur légitime de la couronne de France. » Je vous rappelle qu'entre-temps, Louis XVIII, Charles X avaient régné et qu'ensuite la couronne est passée à la faveur de la révolution de 1830 sur la tête de leur cousin Orléans qui est devenu le roi Louis-Philippe Ier, qui lui n'était pas un roi de droit divin, qui était un roi constitutionnel, Louis-Philippe Ier, roi des Français. Donc, vous imaginez l'enjeu de cette affaire. Sous le règne de Louis-Philippe, quand apparaît le plus célèbre de ses prétendants, qui s'appelle Karl Wilhelm Naundorff, hein, qui est un Allemand, un horloger, qui dit ben, « En fait, c'est moi, je suis Louis XVII, je suis le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette », ça fait beaucoup de bruit. Et
quelle,
ça
preuve fait il apporte, quelle preuve il apporte, Karl Wilhelm Naundorff?
Alors, il dit que toutes les preuves sont chez lui, sont en Allemagne. Le problème, c'est que les gens qui vont essayer d'aller là-bas sur place pour recueillir les preuves en question n'en trouveront pas. Les preuves qu'il apporte, eh bien, ce sont les souvenirs qu'il a. Et notamment, on le confronte à une nourrice, plus exactement à une berceuse des enfants de France, qui s'appelle Madame de Rambaud. Oui. Et cette Madame de Rambaud, qui est très très sceptique lorsqu'elle arrive pour la première fois au rendez-vous avec ce prétendant Naundorff, est assez sidérée parce qu'elle lui tend un petit vêtement qu'elle possédait, qu'elle avait gardé du temps où elle s'occupait des enfants de France. Elle lui tend le petit vêtement et elle lui dit « Ah, ça c'est un vêtement que votre Altesse Royale portait aux Tuileries ». Et Naundorff dit « Ah non, non, pas du tout, je me rappelle très bien, je me revois jouer avec ce vêtement. D'ailleurs, il était trop petit pour moi, j'étais mal aux entournures et je ne l'ai porté qu'à Versailles et à Trianon, etc. » Or, c'était un piège que Madame de Rambaud avait tendu à cet enfant. Et c'est vrai, ce qu'il dit est parfaitement vrai. Et donc, elle tombe littéralement à genoux devant lui, elle dit « Vous êtes mon roi, je vous reconnais ». À partir du moment où une ancienne berceuse royale a reconnu l'enfant, enfin l'enfant qui est devenu un adulte, hein, bien sûr, vous imaginez bien que nombreux sont ceux qui vont le reconnaître aussi. Et il va avoir énormément de partisans, Naundorff. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y a le baron de Richemont, il y en a beaucoup d'autres.
Mais Naundorff, ça veut dire que ses descendants vont obtenir le droit de s'appeler Bourbon, par exemple?
Alors oui, lui est mort à Delft. Les autorités néerlandaises ont permis à la famille de s'appeler Bourbon. Et un arrêt de la cour d'appel de 1913 leur permet de faire de même en France. C'est-à-dire que dans le cadre d'une émission, je raconte tout ça hein, dans cet article d'Historia, parce que j'ai essayé de voir 20 ans plus tard où on en était, si vous voulez. Hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer Hugues de Bourbon, qui est l'actuel descendant de Charles Wilhelm Naundorff, et qui explique que lui aimerait qu'on lui explique si oui ou non il est le descendant de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il sait qu'il s'appelle Naundorff, que maintenant son nom de famille c'est Bourbon. Est-ce que pour autant il est le descendant des rois de France? Ça, c'est une grande question. L'ADN, là encore, c'était une étude du professeur Cassiman, avait parlé en 1998 et dit qu'il n'y avait strictement aucun élément dans l'ADN de Naundorff qui lui permette de dire qu'il descendait des Bourbons. Donc on a dit Naundorff est un imposteur, c'est fini. Mais vous imaginez bien que là encore, vous avez des gens qui contestent les analyses scientifiques et qui vous disent qu'elles n'ont pas été bien faites.
Franck Ferrand, vous avez enquêté de nombreuses années, vous nous l'avez dit, sur cette énigme. Est-ce qu'il y a une histoire ou un prétendant au trône de France qui vous semble plus convaincant?
Il y en a une qui est plus amusante en tout cas. J'avais reçu à la radio il y a quelques années un monsieur qui s'appelle Jacques Sopelsa, qui est un diplomate français et qui, à l'époque où il était en poste en Argentine, avait été mis en présence d'un personnage qui s'appelait Benoît et qui, sans avoir jamais prétendu être le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, présentait un grand nombre d'éléments troublants, notamment dans les objets qu'il possédait, qui avaient appartenu à la famille royale, dans la connaissance intime qu'il avait de la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette, dans le grand deuil qu'il avait pris au milieu du XIXe siècle lors de l'annonce de la mort de Madame Royale, qui était donc la grande sœur de l'enfant du Temple. De là à penser qu'il était l'enfant du Temple qui avait été exfiltré secrètement pendant l'année 1794 qu'il avait pris un bateau, qu'il avait échoué, si je puis dire, en Argentine. Tout ça est assez intéressant. Et en tout cas, le diplomate que j'avais reçu, M. Sopelsa, était absolument convaincu de cette histoire. Ce qui est étonnant avec les prétendants, vous savez, c'est que la façon de présenter leur histoire permet parfois de convaincre des gens tout ce qu'il y a de plus sérieux, tout ce qu'il y a de plus fiable, qui vont vous dire « Eh bien, moi, je sais ce qu'est devenu Louis XVII et ce n'est pas du tout ce que vous croyez. »
Mais ce Pierre Benoît, il a des descendants en Argentine qui peut-être se réclament de la couronne de France ?
Alors, sans aller jusqu'à tout à fait se réclamer d'une couronne qui, de toute façon, n'est plus tellement d'actualité, oui. Il faut bien le dire, il a en tout cas des partisans qui disent qu'on a ignoré sa véritable identité et que sous Pierre Benoît se cachait en fait Louis-Charles de France, dauphin, roi de France et de Navarre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues,
sur RTL.
La curiosité retourne à l'école.